9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Milan le 6 novembre de l'an 355. 355, donc exactement au milieu du 4e siècle, un jeune homme, il a 24 ans, arrive devant l'empereur dans son palais. L'empereur, c'est Constance II et le jeune homme s'appelle Julien. Milan est la capitale de l'Empire romain à cette époque. Julien est le jeune cousin de l'empereur. C'est un personnage un peu insolite jusqu'à la veille. C'était quelqu'un qui se présentait sous des dehors un peu inattendus. Il portait notamment une barbe de philosophe. C'est plus tellement à la mode depuis un siècle, surtout à la cour impériale. On lui a rasé sa barbe dès qu'il est arrivé à Milan. Il parle grec. Il a les yeux vifs avec des arcades sourcilières en amande. C'est un garçon nerveux. Il faut dire que ce Julien est un rescapé. Quand l'empereur Constance a pris la succession de son père, le très célèbre, le très grand empereur Constantin, il a liquidé tous ses rivaux dans la famille, les oncles, les cousins, même les frères, et il a quand même épargné Julien parce que à l'époque, Julien n'avait que 5 ans et il l'a relégué un peu loin de la capitale, il l'a relégué en Cappadoce. La Cappadoce, c'est l'Anatolie d'aujourd'hui, vous savez, qui fait partie bien sûr de l'Empire romain. Et l'enfant a vécu quasi cloîtré, bien surveillé, sous la responsabilité d'évêques fidèles à Constance. Constance est évidemment, comme l'était son père Constantin, un empereur chrétien. C'est très important de le souligner, c'est la clé même de tout ce qui va se passer. L'un des évêques, qui s'appelle Georges de Césarée, avait une gigantesque bibliothèque qui a marqué le petit Julien. Et ses précepteurs lui ont appris à lire, à écrire le grec, à lire les classiques. Et Julien, dans l'étude, s'est littéralement épanoui. À 17 ans, il étudiait la rhétorique et se prenait de passion pour Homère. Un intérêt pour la Grèce antique qui va avoir une première conséquence, c'est que Julien est pétri de polythéisme. Il est passionné par tous ces dieux. C'est vrai qu'il a été baptisé sur le tard. Il évolue bien sûr dans cet environnement chrétien que l'empereur a choisi pour lui, mais Julien est beaucoup plus porté que sur le christianisme, beaucoup plus porté sur les dieux du panthéon hellénique, sur le culte des dieux païens. Et son amour des études va avoir une deuxième conséquence, c'est qu'il a l'air inoffensif. C'est Lucien Gerfagnon. On est toujours très heureux de citer Lucien Gerfagnon. Il écrit dans son Julien dit l'apostat, c'était paru en 1986, que ce personnage affichait, je cite, « une remarquable capacité d'isolement contemplatif ». Quand on le voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il puisse être une menace pour son cousin, l'empereur Constance II. Et comme Constance n'a pas d'héritier, bien maintenant, il appelle Julien auprès de lui, à Milan. Et il lui fait cette déclaration essentielle. « J'envisage de te faire César, qu'en dis-tu » César, ça veut dire qu'il sera l'adjoint direct de l'empereur, son héritier potentiel, ce que nous appellerions son dauphin. Et l'empereur ajoute « Il me faut un homme de confiance pour aller en Gaule, reprendre en main notre armée, rétablir nos frontières le long du Rhin. Les barbares y paradent d'un bout à l'autre, il faut chasser les Alamans et les Francs. » Julien est un peu perplexe, mais il a compris le caractère sacré de cette mission qu'on lui confie. Il n'a pas l'intention de s'opposer à Constance. Pourquoi donc l'envoyer en Gaule, s'interroge Frédéric Bay dans La guerre antique, qui vient de reparaître chez Perrin sous la direction de Jean Lopez. Pourquoi donc l'envoyer en Gaule? Parce que l'empereur fait un pari. Soit le César remportera avec un peu de chance quelques succès militaires que l'Auguste est celui qui est juste au-dessus, c'est l'empereur si vous voulez, c'est Constance, que l'Auguste s'appropriera, soit le jeune philosophe succombera à son manque d'expérience du terrain et Constance n'aura plus de rival dynastique. En attendant, pour bien se l'attacher, Julien est marié à sa cousine Hélène, la sœur de l'empereur. Vous voyez qu'on a pris en main ses destinées.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et voilà donc Julien à cheval qui traverse les Alpes. On est en novembre de cette année essentielle, 355. Il est à la tête de plusieurs centaines de cavaliers, 360. Il est entouré de conseillers qui sont là, qui essaient de le guider, bien entendu. C'est un jeune homme très lucide. Il écrira dans sa lettre aux Athéniens, document essentiel, « Je ne dois pas omettre de raconter ici comment j'ai consenti et choisi de vivre sous le même toit que ceux dont je savais qu'ils avaient miné toute ma famille et dont je soupçonnais qu'il ne leur faudrait pas beaucoup de temps avant de comploter contre moi. J'ai versé des torrents de larmes, j'ai poussé des gémissements, j'ai tendu les mains vers votre acropole quand je reçus l'appel et j'ai prié Athéna de ne pas m'abandonner. » Voyez vers qui se tourne ce jeune homme, vers qui ce nouveau responsable, ce César désigné par l'Auguste, a tendance à remettre son sort vers Athéna. Il va passer l'hiver au sud de Lyon, à Vienne, Vienna, au sud de Lugdunum, devrais-je dire. Il en profite pour tenter de combler ses lacunes militaires, qui sont très grandes, hein, je vous ai dit, c'était plutôt un philosophe qu'un stratège. Et malgré tous les récits de batailles grecques et romaines qu'il a pu lire, eh bien, il va falloir maintenant qu'il apprenne le terrain. C'est un questeur gaulois, il s'appelle Sallustios, qui va lui apprendre un peu les rudiments du combat. « Tiens ton javelot comme ça et regarde loin devant », lui dit-il. Mais il lui apprend aussi la tactique et lui découvre la composition des troupes. Julien va apprendre, il apprend très vite, il a la capacité d'apprendre. Il faut dire qu'il s'entraîne dur, il gagne le respect des soldats. Évidemment, sa barbe a repoussé entre-temps, hein. Il n'est plus à la cour de l'empereur, donc on lui a laissé pousser sa barbe. Et il va gagner en assurance et prendre des décisions. Il s'émancipe et en 356, Julien et sa troupe enregistrent les premiers succès contre les Francs à Autun, ensuite à Cologne et l'année suivante, ils essuient une offensive à Strasbourg. Je vous donne les noms modernes, c'est plus simple. Julien impose à ses troupes de résister à l'assaut et puis il va mener une grande contre-offensive. C'est ce que lui avait demandé l'empereur, c'est ce pourquoi il avait été désigné et il va terrasser les Alamans. Un témoin historien, Amien Marcellin, raconte dans « Choses accomplies », je le cite, « On le vit en personne aller audacieusement à l'attaque et frapper mortellement un ennemi farouche. » Et arrêté plusieurs fois à lui seul la débandade des nôtres en leur opposant sa propre poitrine. Et il ne s'arrête pas là, Julien. Il va franchir le Rhin en terre ennemie pour une démonstration de force. L'idée, c'est d'obtenir bien sûr un certain nombre de garanties de sécurité, parce que ça n'est pas tout de conquérir, encore faut-il ensuite asseoir la conquête. Victoire militaire, donc victoire diplomatique, et pour finir, victoire politique. Quand il s'installe à Lutèce, il est, disons-le, le maître de la Gaule, le bon roi des Gaules, selon la formule de Lucien Gerfagnon. Il va administrer la justice avec le discernement que ses études lui ont permis d'acquérir. Il va lever l'impôt avec plus d'équité, et donc, comme à chaque fois qu'on lève l'impôt avec équité, avec un peu plus d'efficacité. Ça, c'est une petite notation que je fais au passage. Il fait un César plutôt éclairé. Problème, ce statut de bon roi des Gaules déplaît évidemment à celui-même qui l'a installé dans ce poste. Il déplaît à son redoutable cousin, l'empereur Constance II. Le début de la deuxième partie du psaume 9 par Goffredo Petrassi, le chœur et l'orchestre du théâtre de Turin étaient sous la direction de Gian Andrea Noseda.
Vous écoutez Radio Classique.
Julien est donc victorieux des barbares, il est devenu puissant et l'empereur Constance, l'Auguste, voit une menace dans ce César. Il décide de rappeler le gros des troupes de Julien depuis la Gaule vers l'Est en prévision d'une offensive contre les Perses. Et là, il va y avoir un événement dont on doit pouvoir dire qu'il est incroyable. Les troupes gauloises de Julien refusent d'obéir à Constance II. Ils sont tellement inféodés maintenant à leur jeune chef qu'ils n'ont pas l'intention de partir pour la Perse. Et il y a pire encore, en février 360, les troupes en question proclament Julien Auguste, c'est-à-dire tout simplement empereur à la place de Constance. Julien, bien sûr, a tout manigancé, hein, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est ce qu'on appelle une usurpation. Dans la Rome antique et surtout dans cette période de décadence, ça n'est pas une chose si rare, somme toute. Alors quand la nouvelle arrive aux oreilles de Constance, qui lui se trouve le plus loin possible de Rome, il est en Mésopotamie, l'empereur est foudroyé. Il rassemble sur le champ des troupes et le voilà qui marche sur les Gaules pour essayer d'aller écraser cette rébellion à la tête de laquelle s'est placé Julien. C'est un voyage qui est long, qui ne va pas lui réussir, puisqu'en Anatolie, il tombe malade, il s'affaiblit de jour en jour. Il est maintenant à l'article de la mort, Constance. Et en homme d'État responsable, il se résigne à désigner son successeur dans la dynastie. Et on a beau tourner et virer, il n'y a qu'un successeur possible, et c'est Julien, qui a 30 ans, qui désormais donc n'est plus seulement César, mais Auguste. Il est empereur romain, et le voilà qui rentre à Milan. Et d'un de ses premiers objectifs, c'est pas le seul, l'un de ses premiers objectifs, c'est de rompre avec le christianisme. Ah, vous avez bien compris que depuis l'adolescence, Julien est polythéiste. À 20 ans, avant d'être appelé par Constance à Milan, il vivait à Nicomédie, pas loin de Constantinople, dans la villa de sa grand-mère. Et là, pendant des années, il s'est lié avec un certain nombre de philosophes néo-platoniciens qui naviguaient entre toutes les formes de mysticisme. Et pendant son séjour en Gaule, il a prié Jupiter, il a prié Mitra. Et maintenant, il vénère le dieu du soleil, Hélios, sol en latin. Sol invictus, oui. Désormais, il se qualifie d'Hélène, cet empereur, par référence au polythéisme grec. Il affiche ouvertement son adhésion au culte païen. Vous imaginez la révolution après celle qu'avait accomplie quelques décennies plus tôt Constantin, et puis son fils Constance, qui avait suivi dans le christianisme de son prédécesseur. Il entreprend de restaurer l'hellénisme traditionnel dans l'Empire et il va commencer par signer en 361 un édit de tolérance envers toutes les religions. Il abroge les sanctions prises contre les païens, mais aussi contre les juifs et même les chrétiens nicéens de Constance. Il invite tous les croyants qui avaient été bannis à rentrer chez eux, il leur restitue leurs biens. Il veut structurer un clergé du culte hellène sur le modèle de l'Église chrétienne, avec sa hiérarchie, avec ses prêtres, avec ses temples. Bref, c'est l'ancienne religion qu'on est en train de réinstituer. Julien entend limiter l'influence de cette Église chrétienne. Il veut la ramener au rang d'une simple secte autorisée parmi toutes les autres. On se retrouve dans la situation où on était avant Constantin. Il abroge les privilèges qui avaient été accordés aux clercs chrétiens. Il instaure une préférence religieuse envers les Hellènes dans la haute administration. Il évince les chrétiens de l'enseignement, de la grammaire, de la rhétorique et surtout des textes classiques. Et ça, c'est essentiel dans la formation même de l'élite romaine. Par quoi le christianisme se développait-il dans l'élite? Précisément par cet enseignement-là. Voilà ce qu'il dit, le nouvel empereur. Je n'exige pas des éducateurs de la jeunesse qu'ils changent d'opinion, mais je leur laisse le choix qu'ils cessent d'enseigner ce qu'ils ne prennent pas au sérieux ou qu'ils l'enseignent comme la vérité et instruisent les élèves en conséquence. Vous imaginez, entre parenthèses, la modernité de cette approche. C'est assez passionnant ce qui se passe. La réaction des évêques chrétiens est immédiate. Inutile de vous dire qu'elle est virulente. Le plus farouche adversaire de Julien, c'est l'évêque Grégoire de Nazianze qui va écrire un discours qui s'intitule tout simplement « Contre Julien, c'est le dragon, l'apostat, l'assyrien, l'esprit altier, l'adversaire commun et l'ennemi de tous », écrit cet évêque. Celui qui a rempli la terre de ses fureurs et de ses menaces, qui a proféré et entrepris contre le Très-Haut d'innombrables iniquités. Et voilà comment Julien acquiert ce qualificatif d'apostat, c'est-à-dire celui qui a renié la foi chrétienne, bien qu'il n'ait jamais adhéré à la foi chrétienne, souligne Frédéric Bay. Grégoire accuse Julien d'avoir persécuté les chrétiens. Alors, est-ce qu'il a commis des persécutions, Julien? Quelques faits. L'empereur bannit l'évêque de Cizic donc en Anatolie. Plusieurs chrétiens de Bosra, en Syrie, les accusent d'avoir porté atteinte au temple Hélène. Ça, c'est incontestable. C'est Catherine Salle, que je cite avec joie, qui dans Historia, en janvier 2015, ajoutait, je cite Catherine, « Julien interdit que les chrétiens remplissent la fonction de professeur. Certains bravent cette proscription impériale, ce qui entraîne des exécutions sommaires. Marc, l'évêque d'Arétuse, en Sicile, est accusé d'avoir détruit un temple païen. Julien ne veut pas le punir de mort, mais la foule exaspérée finit par lyncher le fautif. » Et c'est vrai que il ne faut pas oublier que le peuple va beaucoup aider le nouvel empereur dans cette espèce de vengeance qu'il exerce à l'encontre de ceux qui croyaient définitivement installer le christianisme dans l'Empire romain. Vous comprenez bien que pour l'Église, c'est l'ennemi maintenant, hein, c'est l'apostat, le persécuteur. La rupture religieuse n'est d'ailleurs pas la seule ambition de l'empereur Julien, qui va démontrer un grand sens de l'État, comme en Gaule. Il réduit le personnel du palais impérial, le nombre de conseillers, de serviteurs, de courtisans, etc. Il déconcentre le pouvoir de Milan pour donner plus d'autonomie aux grandes cités. Enfin, il va nourrir une nouvelle ambition impérialiste, expansionniste si vous préférez. Il se règne en successeur d'Alexandre, de Trajan, de Constantin, trois empereurs conquérants, si tant est qu'on puisse dire d'Alexandre qu'il fut empereur. C'est vers la Perse que se tourne désormais son regard. Quelques mesures de la danse des esclaves perses extraites de la Covanchina de Moussorgski, l'Academy of St. Martin in the Fields, était sous la direction de Sir Neville Mariner.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et le voilà, Julien, qui lance en 363 cette grande campagne militaire le long de l'Euphrate, de la Syrie vers la Mésopotamie, avec toute une armada qui descend le fleuve. Il y a une autre colonne qui, elle, converge depuis l'Arménie au nord. Tout a été très bien planifié. Et les Perses reculent, ils reculent jusque derrière le Tigre. Et puis, soudain, ils arrêtent de reculer, ils se retournent et ils vont faire face aux Romains. Vous connaissez le piège pour la plupart des conquérants, c'est d'aller trop loin dans leur conquête, de se disséminer, de se disperser. Et Julien n'avait pas prévu de tenir aussi longtemps. Il a du mal à contrôler ses troupes. Il ne faut pas oublier que ses troupes sont quand même divisées entre des chrétiens d'un côté et des païens de l'autre. Il subit le harcèlement des Perses et notamment des pluies de flèches. Et voilà que le 26 juin 363 à midi, on est à Samara, sur les bords du Tigre. Un javelot atteint l'empereur. Il l'atteint au foie. Julien est très blessé, tel Achille, son fameux héros de l'Iliade. Il est là qui s'effondre. Il va prononcer un dernier discours. « J'ai reçu le sceptre comme un héritage où m'appelait le ciel et dont je crois n'avoir point abusé. Dès longtemps, une prédiction m'avait averti que le fer terminerait ma vie. La philosophie m'a appris à reconnaître la supériorité de l'âme sur le corps et, changeant ma condition pour une meilleure, j'ai lieu de me réjouir plutôt que de m'affliger. » Il a 33 ans quand il dit cela et qu'il vient bien sûr à mourir.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, évidemment, Julien, qui n'a régné que 3 ans, a beaucoup bousculé les grands équilibres de l'Empire romain. Et maintenant qu'il est mort, inutile de vous dire que les chrétiens vont vouloir relever la tête. Les évêques tirent les conséquences de sa tentative de restauration du paganisme. Ils accentuent leurs efforts pour renforcer l'influence de l'Église, pour assurer sa domination. Et en février de l'an 380, c'est l'empereur Théodose qui imposera le christianisme comme religion officiel dans cet empire romain qui vit ses dernières heures et qui bientôt va devenir, en tout cas pour la partie orientale de l'empire, hein, pour l'empire romain d'Orient, va devenir l'empire byzantin. 380, vous voyez, puisque l'empereur Julien est mort en 363, ça veut dire que, en vérité, les choses ont mis quand même un peu plus de 15 ans, auront mis 17 ans à se rétablir pleinement. Mais cette fois, elles se rétablissent beaucoup plus loin, puisque vous avez compris que ce que Théodose impose, c'est véritablement une religion officielle. Il ne s'agit plus, comme du temps de Constantin, d'autoriser le christianisme ou même de faire du christianisme la religion de l'empereur. Il s'agit maintenant d'imposer partout cette religion dans ce qui va devenir bientôt l'Empire byzantin. C'est l'édit de Thessalonique. Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, il n'est plus question là du soleil invaincu, ni de Mitra, ni des dieux Athéna, Apollon ou qui sais-je. Il n'y a plus que l'apôtre Pierre et la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La personnalité de Julien continuera d'intriguer, de susciter la controverse à travers les siècles. Et vous imaginez bien que tous les historiens chrétiens vont avoir du mal à comprendre qu'un empereur ait pu aller contre ce qui leur paraissait être le mouvement naturel de l'histoire, et notamment de l'histoire spirituelle. Julien restera néanmoins une figure aimée des philosophes. Je pense à Voltaire notamment, qui l'aimait pour sa liberté, à Vigny, Alfred de Vigny, qui a beaucoup parlé de l'intégrité de l'empereur Julien. Quant à Ibsen, il a mis plutôt l'accent sur son côté tragique.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Pierre Anquetin d'avoir fait revivre Julien et bonjour à notre Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck, j'aurais dû me mettre en toge ce matin. C'était en tous les cas mon fils Julien. Vous remercie.
Mais voilà,
que vous connaissez.
J'ai parlé des prénommés Julien. Il y en a un certain nombre que je salue, dont votre fils, bien sûr.
Dans les années 80, c'était à la mode parce qu'en référence surtout à Julien Clerc, notamment.
Ah oui,
ça
aussi,
faisait
oui, c'est
partie
vrai.
Des prénoms qui étaient un peu en vogue. On voit par strates un petit peu les prénoms. Je ne
crois
sais pas.
C'est encore aujourd'hui un des prénoms les plus portés en France.
Sûrement, oui. Voilà, mais enfin, celui de mon fils, lui, est un petit peu prioritaire
dans
mon cœur, vous vous en doutez. Cet après-midi, on va aller en Chine avec vous, mais dans la Chine de la fin du 19e et du 20e siècle, au siècle dernier, donc la Chine de Sun Yat-sen.
Sun Yat-sen, oui, le grand nationaliste.
Révolutionnaire, lui aussi.
Si l'on veut, oui.
Il y en a eu des révolutions en Chine. Et c'est pas fini, peut-être, sait-on jamais. Merci mon cher Franck, 14h cet après-midi, comme chaque matin, aux côtés de David Abiker, l'évocation du point du jour avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Et bonne semaine.